ensemble quelques versets dans l'Écriture maintenant. Et je voudrais lire un verset qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 9. Ce verset ne sera pas le thème principal et le texte principal que nous allons aborder, mais il est une bonne entrée en matière malgré tout. Jean, chapitre 6, verset 9, il est question d'une des deux multiplications que Jésus a accomplies. Vous savez qu'il y en a eu deux, et notamment les évangiles rapportent ces deux multiplications de pain et de poisson. Et notamment dans l'évangile de Jean, il est noté cette référence. Et d'ailleurs, si l'histoire est rapportée dans les quatre évangiles, il n'y a que dans l'évangile de Jean que l'on expliquera que ces pains et ces poissons ont été donnés par un enfant. Donc, c'est le point que je voulais mettre en avant pour aborder cette méditation, pour nous permettre certainement d'avoir un regard différent sur la manière dont Dieu veut et peut agir, et surtout la manière dont Dieu pourrait évidemment intervenir encore aujourd'hui, parce que Dieu est un Dieu qui peut faire beaucoup, beaucoup infiniment au-delà de ce que l'on peut demander ou imaginer. Nous lisons donc, je vous le remets dans le contexte, mais retenez juste ce verset, verset 5. « Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus les a fait asseoir. Il leur a donné à manger et la Bible dit que les pains se sont multipliés, les poissons se sont multipliés, de sorte que tout le monde a été rassasié, largement rassasié, et on a emporté 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Alors, ce qui m'intéresse, c'est finalement cette notion, cette remarque qui est faite, parce que les autres évangiles donnent d'autres précisions. Et notamment parmi ces précisions, l'affolement des disciples, ça c'est une généralité, l'affolement des disciples, on ne va pas y arriver, c'est impossible, c'est totalement impossible d'avoir suffisamment à manger pour tous ces gens-là, on n'y arrivera pas. Et selon les évangiles, Jésus dira, allez vérifier qu'est-ce que l'on a, allez vérifier. Et on a fait le tour et à un moment donné, on est revenu avec cette information, il y a un jeune garçon, alors on ne sait pas quel âge il pouvait avoir, hein. On va dire qu'il était jeune, jeune garçon qui a quelques pains, quelques poissons, mais bon, je noterai, et je pense que vous serez d'accord avec moi, si vous avez fréquenté, si vous avez eu des enfants ou fréquenté des jeunes enfants, vous savez qu'en général, un enfant, on va prendre un petit enfant, il ne donne pas naturellement, il ne donne pas. Quand il a quelque chose dans la main, on le voit dans un jardin d'enfants, vous avez un enfant qui a un jouet, il y en a un autre qui... Il y a 50 jouets, hein. Mais il y en a un autre, il veut justement celui-là. Allez savoir pourquoi, toujours comme ça que ça se passe. Donc il va y aller, il va essayer de lui prendre des mains. Et qu'est-ce que vous allez entendre? Des cris, des hurlements. Parce que l'autre, il ne donne pas. Il l'a dans la... il ne veut pas le donner. D'ailleurs, on est touché par la gentillesse des enfants quand ils mangent des bonbons et qu'à un moment donné, ils vous en donnent. Il y a de fortes chances qu'ils n'en veulent plus. Sinon, ils ne vous le donneraient pas. Sinon, ils le garderaient. D'ailleurs, c'est tellement naturel que bien souvent, ces enfants disent « Tiens, t'en veux, j'en veux plus. » La vérité sort de la bouche des enfants. Les adultes sont plus prévenants ou plus malins. Ils disent « Est-ce que tu en veux ?» Ils ne disent pas qu'ils n'en veulent plus. Mais... Bref, un enfant ne donne pas naturellement. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Il n'est pas tellement donneur, l'enfant. Sauf que c'est quelque chose qu'il va apprendre. Vous allez lui apprendre à donner. Ça ne va pas être facile, mais vous savez très bien qu'il a tout intérêt à apprendre. Et si vous voulez passer de bon temps avec vos enfants, vous avez intérêt à leur apprendre à donner. Sinon, vous n'avez pas fini de criser, là, ça va être compliqué. Donc, il faut le faire, c'est normal. Et de toutes les manières, il va donner, et ça va être certainement profitable, résister. On s'aperçoit que souvent, résister, c'est un peu un réflexe de survie, hein, quand on ne veut pas donner, parce qu'on se dit, si je donne, qu'est-ce qui va me rester ? C'est un petit peu ça l'idée, si je donne, qu'est-ce qui va me rester ? Et je crois qu'un enfant, peut-être même un enfant de Dieu, a quelquefois du mal à concevoir la notion de perte et de gain. Si je perds ça, qu'est-ce que je gagne en retour ? Si je laisse ça, qu'est-ce que je vais retrouver en retour ? Et je reviens à l'histoire de ce jeune enfant qui, lui, était au milieu de cette grande foule. Et puis, on vient, on lui dit, eh bien, donne-nous tes poissons, donne-nous tes pains, on en a besoin. Peut-être qu'il aurait préféré dire, attendez, je mange d'abord et ce qui reste, je vous le laisserai volontiers, mais je mange d'abord. La notion de perte et de gain, ce n'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Alors, vous comprenez la leçon a été fabuleuse, parce que si un enfant vit d'une certaine manière l'instant présent, parce que c'est difficile d'imaginer qu'est-ce qui peut arriver demain, vous dites à un enfant qui est en train de jouer précisément avec un jouet, mais donne-le-moi, je te le rendrai plus tard, il ne vous croit pas. Parce que lui, ce qui compte, c'est maintenant. Il vit le moment présent. Et d'ailleurs, si vous finissez par lui prendre, il va toujours le regarder du coin de l'œil. Et si vous quittez la pièce, il va venir en courant, c'est sûr, en disant « il est parti, il ne revient plus ». C'est normal, on vit dans l'instant présent. Quelquefois, dans notre vie chrétienne, on vit dans l'instant présent. D'ailleurs, on est obligé de vivre dans l'instant présent. Je vous encourage à vivre l'instant présent. Mais quand même, est-ce que ce n'est pas une nécessité de porter son regard aussi vers plus loin ? C'est-à-dire une forme d'investissement. Je sais ce que Dieu m'a donné, mais je sais ce que Dieu a fait et je sais où Dieu m'emmène. Je sais ce que Dieu fera encore. Je sais de quelle manière Dieu s'occupera de moi. Et je me demande si quelquefois dans la vie chrétienne, on n'a pas plutôt protégé, préservé, plutôt qu'investi. Et on va y revenir au travers d'un autre passage dans un instant. Mais j'en reviens encore à ces fameuses paraboles. Ces fameux miracles, pardon, on viendra sur des paraboles plus tard. Regardez, il y en a deux de ces multiplications des pains. La première, 5 pains, 2 poissons, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Précision des évangiles. On a récupéré 12 paniers. Une autre fois, 7 pains, quelques poissons, un autre événement. Ce n'est pas le même, c'est un autre miracle. Là, on a dénombré 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et tout le monde a été rassasié et on a récupéré 7 corbeilles pleines. Dites-moi, est-ce que investir avec Dieu, on est perdant ? C'est mathématique, hein ? Quand on investit, on ne peut pas être perdant. On se met à la place de ceux qui avaient, de ce jeune garçon, ou des autres personnes qui avaient ces 7 pains et ces quelques poissons. Et ils ont peut-être eu le même réflexe. S'ils étaient venus en famille avec des parents, des frères, des sœurs, etc., ils se sont peut-être dit, c'est notre pique-nique, c'est notre repas, on a calculé pour nous. Même si on calcule toujours un petit peu plus, on n'a pas calculé pour 7000 personnes. C'était impossible à calculer d'ailleurs. Mais avec Dieu, l'impossible n'existe pas. Avec Dieu, l'impossible n'existe pas. Alors, c'est une règle qui est biblique, évidemment. C'est une règle qui est vraiment biblique. Dans le livre des Actes, vous vous souvenez de ce verset, Actes chapitre 20, et verset 35, il y a plus de bonheur. Vous le connaissez. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est tellement vrai. Et quand vous prenez le jouet de l'enfant et qu'il pleure, vous lui dites, t'inquiète pas, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il a besoin de l'expérimenter, sinon il ne comprendra pas. Et pour nous, c'est pareil. Autant on entend, autant on voit qu'il y a plus de bonheur, effectivement, à donner qu'à recevoir, mais il faut l'expérimenter, bien-aimé. Je vais vous montrer une manière de l'expérimenter pour qu'on puisse expérimenter ensemble dans cette semaine. On va aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Et là, on va lire un texte tout en entier. Évangile de Luc, chapitre 19, verset 11. Évangile de Luc, chapitre 19, et à partir du verset 11. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem. et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, c'était de l'argent, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui des serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. » Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Amen. Alors Jésus est en route pour Jérusalem et dans les versets qui suivent, il nous est dit que quand il va arriver juste devant les portes de Jérusalem, il va pleurer sur la ville. Il va pleurer sur la ville avec ces mots que vous connaissez certainement en disant ceci, Jérusalem, si tu connaissais au moins en ce jour qui t'est donné les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, te réduiront, te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Un temps de grâce était là, du temps de Jésus, un temps de bénédiction et certains passaient à côté, mais pas tout le monde. Certains ont entendu le message, certains ont accepté le message et certains ont emboîté le pas et ont suivi. Et parmi ces gens-là, il y en avait pas mal qui finalement étaient là et bien d'une certaine manière, ils ont vu en Jésus un homme exceptionnel. On s'aperçoit que c'est la dernière fois que Jésus fait route vers Jérusalem. Il va quand même entrer dans les rues de Jérusalem sous les acclamations. On va l'acclamer. Il a enfourché un ânon, petit d'une ânesse, il entre dans la ville et on crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il se passe un événement assez particulier, d'ailleurs, à tel point que certains voulaient le couronner roi, certains voulaient le faire roi. C'était déjà arrivé quelque temps plus tôt, alors que d'autres le détestaient jusqu'à vouloir le précipiter des falaises de Nazareth. D'autres auraient bien voulu faire de lui le roi, sauf que ce Jésus-là, était bien le roi, mais ce n'était pas le roi qu'ils attendaient, ce n'était pas le roi sur lequel ils comptaient, ce n'était pas ce roi-là, ce n'était pas ce Messie qui était en train de manifester sa bonté et son amour aux hommes. Ce Messie qui entre dans les rues de Jérusalem, c'est un Messie qui va souffrir, c'est un Messie qui va livrer son corps, sa vie, c'est un Messie qui doit expier la faute, c'est un Messie qui doit monter sur la croix pour que son sang puisse purifier les hommes de leurs fautes. Et tant qu'il n'est pas passé par là, tant que cette œuvre n'est pas accomplie, ce Messie ne foulera pas la terre avec gloire et puissance, avec autorité, prenant autorité sur tous les royaumes de la terre. Il doit d'abord souffrir avant de revenir triomphant. Sauf que, évidemment, cette nation juive ne l'entend pas comme cela. et elle est perturbée par la vision de ce Jésus-là. Il voulait bien sûr un Messie glorieux et ils auront un Messie souffrant. Il voulait un Messie couronné, mais il ne s'imaginait pas qu'on le couronnerait d'épines avant de le couronner de perles et de diamants. Il sera couronné, effectivement. Pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'il y a un contexte à cette parabole que Jésus va prononcer. Un contexte que les gens connaissaient bien, évidemment, mais il y a peut-être une singularité également, parce qu'il y a une autre parabole qui ressemble à celle-là. Et cette autre parabole, c'est la fameuse parabole des talents. Vous la connaissez, cette parabole ? Un homme s'en va, un homme riche s'en va, et il va confier sa fortune à plusieurs de ses employés, et il va confier à l'un combien de talents ? 5 talents, à un autre 2, à un troisième 1, à chacun selon sa capacité. Il est parti pour un moment, il a demandé de faire valoir cela parce qu'il reviendra, et il revient, et là il demande des comptes. D'un côté il s'agit de talents, de l'autre il s'agit de mines. D'un côté, on parle de 3 hommes, de l'autre, de 3 ouvriers, si vous voulez, de l'autre, on parle de 10 ouvriers. Donc, ce n'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. En plus, il y a un contexte attaché à la parabole que nous avons lue ensemble. Vous avez vu que cet homme riche, cet homme de haute naissance qui s'en va, allusion au Messie, bien évidemment, il s'en va et il nous est dit qu'il est détesté, il n'est pas aimé par ses concitoyens. Et évidemment, quand Jésus est venu, qui l'a accepté, qui l'a rejeté ? Combien l'ont accepté, combien l'ont rejeté ? Donc il y a cette notion. Et quand Jésus arrive aux portes de Jérusalem, il l'explique davantage en disant : Jérusalem, tu n'as pas saisi, tu n'as pas réalisé le temps où tu as été visité. Mais ce que je note, et ça, nous, on ne le comprend pas, si on ne connaît pas le contexte historique, mais eux le connaissaient très bien, le contexte. On est à une époque de transition gouvernementale. Hérode le Grand meurt, et c'est son fils, Hérode Archélaüs, qui doit prendre le trône. Et on est dans une province qui est sous régence, hein, qui est gouvernée par l'Empire romain, et vous pensez bien qu'à cette époque-là, le peuple juif, ça fait bien longtemps, qu'il aurait bien bouté l'ennemi dehors, il aurait bien chassé l'Empire romain de la province de Jérusalem, mais il n'y arrive pas, alors ils se disent « si ». Eh bien, il y a une passation de pouvoir, on aimerait bien qu'elle ne se fasse pas comme ça. Alors quand Archélaüs a plié les bagages pour aller à Rome, pour être investi, les Juifs ont envoyé quelques messagers, une ambassade en direction de César pour lui dire « s'il te plaît, on ne veut pas que cet homme règne sur nous ». Sauf que ça n'a pas marché, parce que César a dit « ce sera Archélaüs et personne d'autre ». Et Archélaüs est revenu et a régné. Donc, d'une certaine manière, quand Jésus fait le parallèle avec cette histoire qu'ils étaient en train de vivre, ça leur parlait quand même. Ça leur parlait. Et Jésus pouvait leur dire, ce Messie que vous ne voulez pas, il régnera quand même. Ce Messie que vous rejetez, c'est lui qui reviendra investi de l'autorité royale. C'est lui qui reviendra poser son pied sur la montagne des Oliviers et mettre un terme à la bataille d'Armageddon. C'est lui qui fera cela. Vous feriez bien de l'accepter, de ne pas le rejeter. Alors ça, c'est l'histoire qu'il y a en arrière-plan. Mais l'histoire en premier plan, elle est quand même intéressante, parce que, comme je vous l'ai dit, on ne va pas confondre les deux paraboles. D'un côté, 3 ouvriers qui sont jugés sur leur capacité, à chacun selon sa capacité. Et puis d'un autre côté, 10 ouvriers qui reçoivent tous une part égale. Le talent, ça valait beaucoup, hein. Le talent... On considère qu'un talent, ça valait grosso modo une année de salaire. Alors on va calculer aujourd'hui, salaire net, médian, 1500 euros par mois. Cet homme a donné à l'un 5 fois 18 000 euros. Ça fait combien ? À peu près ça. Donc 5 fois 18 000 euros, 90 000 euros. Il lui donne ça en lui disant « tu fais valoir ». Au deuxième, il en donne 2. 36 000 euros. Au troisième, il en donne 18 000 euros, ça fait 144 000 euros, si on actualise. Hein. Quand il est revenu, le premier en avait gagné 5 autres, le deuxième avait doublé aussi la mise, et le dernier, il n'avait rien doublé du tout, il avait juste gardé. Il n'avait pas investi, il avait protégé. Alors, sous prétexte, c'est un peu la même parabole, hein. Sous prétexte, tu es un homme dur, tu es un homme méchant, tu vannes où tu n'as pas semé, etc. J'ai eu peur, j'ai caché, reprends ton bien. Donc, tant mieux qu'il ne l'ait pas perdu, évidemment. Donc, il a investi 144 000 euros, il a récupéré 270 000 euros. C'est pas mal quand même, hein, 270 000 euros. Dans le deuxième cas, la parabole qu'on a lue, il y a un investissement au départ de 50 000 euros parce que la mine, ça valait juste 100 journées de salaire. Alors, si on dit 50 euros par jour, ça fait 5 000 euros. Il a donné 5 000 euros à chacun. Comme ils étaient 10, il a investi 50 000 euros. Vous avez vu qu'il y en a un qui n'a pas doublé, hein. Il a décuplé. Il y en a un qui avait 5 000 euros et il revient, il en a 50 000. Ta mine, tu m'en as donné une, je t'en rends 10. Le rapport est beaucoup plus important. On n'est pas du simple au double, on est de 1 à 10. Le deuxième, ben lui aussi, a quand même bien récupéré, puisque la mine en a donné 5 autres. Et puis, on parle d'un troisième qui, lui, a préservé. Alors, si je fais juste ce compte-là, il a investi 50 000 euros et il a récupéré 80 000 euros. On est en dessous des chiffres du dessus. Mais malgré tout, on va aller au minimum. D'accord ? Au minimum. Vous me suivez ? On va au minimum. Dans la deuxième parabole, on parle de 10 personnes. Et on a juste le résultat de 3. Il en manque 7. Hein ? D'accord ? Il en manque 7. Donc avec 3, il a récupéré 80 000 euros. En admettant que les 7 autres ait été aussi peureux que celui qui avait mis l'argent dans un linge, à minimum, il aura récupéré 120 000 euros. Mais si, parmi les 7 autres, il y en a un qui a quand même investi, parce qu'on peut l'espérer, après tout, il a quand même investi, il n'a pas rapporté 10 fois plus, ni 5 fois plus, mais il a rapporté 2 fois plus, 3 fois plus, 1 fois et demi, 4 fois, allez savoir, 7 fois, 8 fois, on ne sait pas puisqu'il n'y a pas de détails. Mais je veux dire, le chiffre, en fait, il pourrait être beaucoup plus élevé. Beaucoup plus élevé. Ce que je veux vous dire, c'est que finalement, Dieu travaille avec nous sur deux plans. Évidemment, il va nous utiliser selon nos capacités, mais il va aussi nous utiliser selon notre investissement. Et là, on ne parle pas de qualité, parce que d'un côté, on parle de compétences, chacun selon sa capacité, et de l'autre, à part égale. Donc, s'il a donné la même somme à tout le monde, il se doutait bien que les 10 n'avaient pas le même cerveau, ils ne pensaient pas la même chose. D'ailleurs, le résultat le prouve. Et si on a le résultat, c'est pour nous prouver que quand, finalement, on a la possibilité de faire quelque chose, on a 10 façons de le faire différentes, forcément. Si on est 10, on va tous appréhender la chose d'une manière différente. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je m'aperçois que le patron a fait confiance et il a investi. Évidemment, il aurait pu perdre. Hein. Même celui qui a donné les 144 000 euros, il aurait pu revenir. Ah, écoute, depuis que tu es parti, il y a eu la crise de 2008, les subprimes, on n'a plus rien. Fauché, zéro. Ça aurait pu arriver. Hein. Ou alors, celui qui a investi les 50 000 euros, même s'il a moins investi, et qu'il soit tombé sur 10 bons à rien, ou des propres à rien, ou des mauvais à tout, ils reviennent tous penauds en disant « Écoute, j'ai investi, j'ai joué au casino, ça n'a pas marché, je suis désolé, j'ai plus rien, et au fait, il faut que je te dise, tu dois même de l'argent à quelqu'un. » Tout aurait pu arriver. Mais n'est-ce pas là la loi de l'investissement ? Je ne suis pas persuadé d'être un bon investisseur, moi. Je ne sais pas si j'aurais été capable de faire ce que certains ont fait avec une petite mise. Ils croyaient tout, ils étaient sûrs que ça allait marcher. Ils ont eu du nez, ils ont eu du flair, ils ont investi quand il le fallait, au bon endroit, au bon moment, etc. Je ne suis pas sûr d'être aussi capable. Mais je suis certain que Dieu a du flair, pardon de le dire comme ça, que Dieu a du nez et que Dieu sait où il doit investir. Que Dieu sait comment il faut le faire, que Dieu sait là où ça marchera, ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous ait dit dans le livre de l'Ecclésiaste, tous les matins, vas-y, lance, sème, envoie ta semence. Tu ne sais pas, toi, ce qui réussira, mais s'il y en a un qui le sait, c'est bien Dieu. Et si Dieu nous a fait la grâce, dites-moi, d'investir en nous. Est-ce que ce n'est pas pour qu'à notre tour nous investissions ? Nous pouvons être comme un enfant. Dieu nous a donné, eh bien on va le garder, on va le préserver. Il ne va pas s'abîmer, on va peut-être même le fossiliser, on va le momifier, ça ne va pas bouger. Dans 1000 ans, ce sera exactement la même chose que Dieu nous a donné aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut ? Est-ce que ce n'est pas mieux de l'investir ? Parce que, en termes, si vous faites le rapport quand même, allez-y, hein, je pense que la deuxième option était beaucoup plus rentable. Regardez bien, la deuxième option est beaucoup plus rentable. Et je suis persuadé que l'investissement a toujours été la chose qui est beaucoup plus rentable pour Dieu. Dans le fond, on s'aperçoit que nous avons été sauvés et que Dieu a déposé dans nos cœurs une mission, aller partout le monde, faites connaître la bonne nouvelle, et nous savons qu'il y a une rétribution à cela. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. N'est-il pas vrai qu'à la fin du monde, le monde se présentera devant le jugement dernier ? C'est pas écrit ça ? Mais vous savez que vous qui marchez avec Dieu, vous échapperez à ça ? Vous serez présenté au tribunal de Christ, qui semble, selon toute vraisemblance, parce que c'est écrit comme cela et tous les commentateurs sont d'accord avec cela, ce sera davantage une remise de récompense. Pas un jugement sur ce qui n'a pas été fait, mais plutôt une satisfaction de ce qui aura été fait. Alors pourquoi ? Eh bien, il est important d'avoir un regard différent sur ce que Dieu a fait en nous, tout simplement parce qu'il faut nous rappeler que si Jésus nous a sauvés, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. Si Jésus a pardonné nos fautes, ce n'est pas que pour nous, c'est pour lui. Et si Jésus est monté à la croix, ce n'est pas que pour nous, c'est pour la gloire de Dieu. Dans la lettre de Paul aux Colossiens, il est dit ceci, en parlant de Jésus qui nous a transportés dans le royaume, Dieu qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Ce Jésus-là, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et tout a été créé pour lui. Ça veut dire que nous avons été créés pour lui aussi. Si on est bien dans le tout, à moins que vous soyez tellement exceptionnel que vous ne soyez pas dans le tout, mais vous devez y être dans le tout, certainement vous devez y être aussi. Alors nous avons été créés pour cela aussi. C'est intéressant à méditer là-dessus parce que l'enseignement que l'on peut retirer de cela, c'est que Dieu souhaite notre participation et notre investissement. Vous savez que je peux être quelque part sans m'investir, hein. Je peux être quelque part sans m'investir, non ? Je peux être faire partie d'une association, j'ai ma carte de membre, mais je ne m'investis pas. J'ai le droit, ce n'est pas une obligation de s'investir. On a le droit, c'est comme ça. Dans la vie, paraît-il, surtout la vie d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de situations critiques par faute d'investissement, le bénévolat, etc. Ça devient critique dans des tas de domaines. Donc je peux très bien participer sans m'investir. Je suis là, je fais acte de présence. Je pense que parmi les 10, on va parler du seul, le pauvre, dont on reprend l'histoire, celui qui a mis dans un linge, lui, il a participé à l'expérience, mais il ne s'est pas investi. Il n'a pas investi ce qu'il avait. Alors évidemment, il n'a rien perdu, mais il n'a rien gagné. Et vu les remontrances qu'il entend, d'ailleurs, il faut vous dire que c'est même pas le patron qui le juge. C'est lui-même qui se juge. Vous avez vu ce que dit le patron quand cet homme dit « Je sais que tu es sévère, je sais, tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé, donc je sais tout cela, j'ai eu peur, j'ai gardé ton bien, je te le rends. » L'homme dit « Je te juge sur tes paroles. » C'est dommage qu'il ait prêté à son patron un cœur aussi dur, hein, parce que s'il s'était dit « Ouais, il est chouette mon patron quand même, tu te rends compte, il me fait confiance, Il m'a donné une part de ses biens et il croit que je suis capable de faire valoir ça. Il aurait dû rentrer chez lui fou de joie. Il est rentré chez lui stressé en disant « Je fais quoi avec ça maintenant ? Et si je le perds, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Ouais. Plaise à Dieu que vous rentriez à la maison fou de joie et pas stressé, fou de joie, parce que le Seigneur a décidé d'investir. Alors évidemment, il peut se passer de nous, évidemment. Évidemment, on ne va pas se prendre pour la cuisse de Jupiter. Hein. Évidemment, il peut se passer de nous. Mais dans la mesure où il a décidé de faire un petit peu avec nous, ça vaut le coup de s'investir, frères et sœurs. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu souhaite notre participation et notre investissement. Et comme je le disais, on peut être quelque part, mais ne soyez pas quelque part. Faites partie de la vie de ce quelque part. Vous n'êtes pas appelé, et on n'est pas appelé, à préserver et à protéger l'œuvre de Dieu. On n'est pas appelé à faire ça. C'est Dieu qui protège son œuvre. C'est lui qui s'occupe de ses plans, c'est lui qui gère cette histoire-là, ça lui appartient. On n'est pas appelé à protéger ça, on est appelé à investir, au contraire, ce que l'on a reçu, même, quitte à être prêt à tout perdre. Ouais. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, il la sauvera. Je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ça a été d'ailleurs une confusion parmi les disciples, enfin parmi les autres ouvriers dans cette fameuse parabole des mines, parce que vous avez vu la réaction du patron. Il a dit « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 ». Et les autres n'ont pas compris en disant « mais il en a déjà 10, on va pas lui... il y en a un ». Il en a à peine une et demie, deux, on va plutôt lui donner à lui pour l'encourager. Il a fait du bon travail, il s'est démené, etc. Finalement, peu importe à qui cette mine revient, elle est revenue à celui qui en avait le plus, mais je pense que ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut juste regarder qu'à celui qui croit, il sera donné. À celui qui s'investit, il sera donné encore. Mais à celui qui ne croit pas et qui ne s'investit pas, il perdra ce qu'il a. Le plus terrible, c'est d'imaginer qu'en gardant, en préservant, on sera heureux. D'ailleurs, j'en reviens à l'histoire de mes enfants, ces fameux enfants qui jouent. Imaginez, toujours pareil, vous prenez on va l'imager comme ça, un petit garçon qui est sur, vous savez, les petits camions, là. Avec les pieds, il pousse le camion. Donc, il est à la maternelle ou dans le jardin d'enfants, et il n'y a qu'un camion pour 5 enfants. C'est un mauvais plan, ça. Il y a d'autres jouets, mais tout le monde veut le camion. Donc tous les enfants sont à côté de lui, et lui, il est fier, il est sur son camion, il ne lâche pas le camion, il le garde. C'est le sien, et il énargue même les autres. Hein. Au bout d'un moment, les 4 autres s'en vont, et il le laisse tout seul. Tout seul. Et ils vont jouer à autre chose. Vous allez voir que rapidement, le petit va sortir du camion, il va aller rejoindre les autres. Parce qu'il est malheureux. Parce qu'il a voulu préserver, mais qu'est-ce qu'il a gagné ? Rien. Rien. Frères et sœurs, investissons ce que Dieu nous a prêté, la vie, ce que Dieu nous a prêté, tout ce que nous avons, même si ce n'est pas en bon état, investissons-le. Dieu sait pourquoi il est dans cet état-là, Dieu sait pourquoi il nous l'a laissé comme ça. Investissons-le. Et je crois que si on est prêt à tout perdre, bien aimé, à part notre orgueil, notre vanité, nos prétentions, on ne va pas perdre grand-chose. On va plutôt beaucoup gagner. Et la grâce de Dieu fera qu'on gagnera énormément. Alors, on ne parle pas de capacité, mais on parle plutôt de volonté, de désir, de souhait, de regard, de vision. Dieu donne encore à celui qui a. Frères et sœurs, que notre regard soit peut-être un peu différent. Merci Seigneur pour tout ce que l'on est capable de faire. Parce que Dieu se sert de nos capacités aussi, c'est quand même lui qui nous les a données. Donc, il s'en servira. Mais au-delà de nos capacités, le plus important, c'est l'envie. L'investissement, le désir, est-ce que j'ai vraiment envie ? Est-ce que je veux vraiment ? Et nul doute que vous voulez, nul doute que vous avez envie de le faire, alors allez-y. Allez-y, ne vous retenez pas, allez-y, faites-le. Le meilleur est devant et c'est évident que ça fonctionnera. Alors souvenez-vous qu'on peut investir de différentes manières, mais il reste un investissement qui est extraordinaire et moi j'opterai davantage pour le deuxième. Allons-y, n'hésitons pas parce que les jours sont mauvais, la nuit descend. Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Combien de fois avons-nous dit ça? J'ai une mine. Qu'est-ce que cela pour tant de besoins? J'ai un quart d'heure. J'ai un peu d'envie. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de santé. Qu'est-ce que cela par rapport au monde? On a donné à manger à tout le monde. Et on a récupéré 12 paniers pleins. Avec Dieu, il pourvoit, il donne la semence au semeur et il en restera de plus encore. Alors que Dieu soit béni, parce que vous êtes équipés, vous avez certainement l'envie. Et si vous avez l'envie, Dieu a le souffle pour communiquer la vie à cela et faire en sorte que ça serve à sa gloire et à sa gloire seule. Amen. On se lève ensemble et on invoque son nom. Amen. Seigneur, nous te demandons grâce et nous te demandons ton secours et ta bénédiction parce qu'il nous arrive quelquefois certainement de manquer d'envie. Ce ne sont pas les mines que nous n'avons pas, ce n'est pas les moyens dont nous ne disposons pas, mais c'est tout simplement l'envie, c'est tout simplement le désir intérieur, c'est tout simplement la peur de perdre, c'est tout simplement l'envie juste de préserver pour qu'il n'y ait pas de critique qui soit faite à notre encontre. Maintenant, je te prie, Seigneur, de changer notre regard et de nous donner le même regard que toi tu as eu. Tu as été capable d'investir, tu as été capable de donner sans regarder aux capacités, mais tout simplement parce que tu as fait confiance. Et je veux te louer pour cette confiance que nous voulons te faire. Nous voulons te faire confiance autant que tu as pu nous sauver, nous délivrer. Je veux te remercier pour cela. Je prie que tu manifestes ta gloire encore autour de nous. Merci pour toutes les fois où nous avons rendu témoignage. Merci pour toutes les fois. Nous avons parlé de ton amour et de ta fidélité. Merci pour toutes ces fois où tu nous as encouragés. Que ton nom soit béni pour ta fidélité. Raccompagne-nous dans ta paix et donne-nous d'investir ce que nous avons, de le sortir de notre placard, de le sortir du linge dans lequel nous l'avons enfermé et de voir ainsi ton œuvre se démultiplier. Nous comptons sur ta grâce. Nous savons que c'est le temps du salut, c'est le temps de la grâce, c'est le temps ou jamais pour que des hommes et des femmes te trouvent. Merci de ton œuvre, merci de ta grâce. Raccompagne-nous avec ta joie, raccompagne-nous avec beaucoup d'excitation dans notre cœur, réalisant que c'est un nouveau départ pour quelques-uns. Tu nous entraînes un peu plus loin à ton service et tout cela est une belle chose. Que ton nom soit béni.